Jacqueline Arbogast est conférencière, elle est coach de vie, elle est psychothérapeute et elle est avec moi pour nous causer stress. Stress aigu particulièrement aujourd'hui, Jacqueline?
Oui, parce qu'il existe différentes formes de stress.
Il y en a du bon, du moins bon.
Et d'une part, et puis il y a le stress, j'allais dire ponctuel, aigu, mais il y a le stress répété et le stress chronique. Donc, pour moi, ce sont trois choses différentes et si vous êtes d'accord, je vous en parlerai dans mes prochaines chroniques pour bien les différencier. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement du stress aigu, qui est quelque chose de factuel, de ponctuel.
J'imagine que de poser la question, les athlètes olympiques qui se préparent et quel type de stress ressentent-ils, c'est probablement aussi varié qu'il y a d'athlètes. C'est pas aussi simple de dire, ah, eux, c'est important, donc c'est du stress aigu, parce qu'il y en a qui vont mettre leur vie en danger. Je pense au saut à ski, je pense au bobsleigh. Ça varie selon l'athlète, j'imagine?
À la fois selon l'athlète, sa psychologie, j'allais dire, mais aussi effectivement de l'enjeu. Et s'il est en groupe, s'il est seul, quel type de sport il fait.
Ses premiers JO plutôt que ses troisièmes.
Oui, bien sûr. Ouais. Et puis la manière dont il a appris à gérer le stress aussi.
OK, donc vous allez nous apprendre pour que le jour où nous serons aux athlètes olympiques, on sera apte à profiter du bon stress et le transformer, le mauvais stress. Il y a quelqu'un qui répondait à la question. C'est Claudia qui répondait à la question, quels sont vos trucs pour faire face au stress? Je ne sais pas si ce sont des bons trucs. Elle a dit, se répéter que ce n'est pas nécessairement une raison d'être stressé. Prendre une grande respiration et chantonner. Est-ce que ça m'apparaît, une Advil pour combattre un cancer? Est-ce qu'on parle de stress aigu ici lorsqu'on chantonne et...
Alors, oui, ce que j'allais dire, ça dépend de quel stress on parle. Donc, si on prend l'exemple de la personne qui est en voiture, qui est en retard, et en plus, elle est prise dans un bouchon de circulation, donc nettement, elle va arriver en retard à son rendez-vous, elle subit là un stress aigu parce que c'est quelque chose de factuel, de ponctuel, c'est pas forcément tous les jours, à tout moment de sa vie. Et là, effectivement, il y a comme... je dirais, à faire une sorte de lâcher-prise parce qu'elle ne elle n'a pas de pouvoir sur les choses à ce moment-là. Ça ne dépend pas d'elle, ça ne dépend plus d'elle, ça dépend de la circulation. Donc là, vous savez, la prière de la sérénité qui dit dans sa première partie, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, c'est le moment ou jamais de se mettre ça en tête. Pour l'instant, je suis prise dans cet accident de circulation, donc je ne peux pas faire aller ma voiture plus vite.
C'est ensuite, incroyable que François d'Assise était visionnaire à ce point-là. Il pensait déjà au métro en panne et au bouchon de circulation.
Ensuite, c'est d'étudier la situation. Qu'est-ce que j'ai comme moyen de sortir de mon stress? Est-ce que je peux prévenir que je vais être en retard? Est-ce que je peux demander à quelqu'un de prévenir? Parce que des fois, on n'a pas le nom ou le contact direct. Est-ce que je peux reporter le rendez-vous? Ça dépend des situations encore là. Donc, essayer de trouver qu'est-ce que je peux faire pour... prévenir cette situation, pour donner l'information pour qu'à l'autre bout de la chaîne, les gens n'attendent pas inutilement ou que ça ne mette pas des personnes en retard elles-mêmes. Donc, se donner les moyens. Ensuite, je suis toujours dans mon métro qui est bloqué ou dans ma voiture qui est bloquée, c'est effectivement de respirer, vraiment prendre un grand respire parce que de toute manière, je ne peux pas changer la situation. Donc, essayer de s'apporter un peu de lâcher prise, de s'apporter un peu de détente personnelle parce que si je reste dans l'état de stress provoqué par la situation, je vais me contracter, donc je vais avoir des muscles qui vont se resserrer, la respiration qui va se bloquer, je vais avoir peut-être des palpitations, je vais peut-être avoir des tremblements, je vais peut-être avoir des contractures, des douleurs dentaires, musculaires. Vous savez, tous ces signes de stress qu'on peut avoir quand ça nous prend comme ça un peu par surprise. Et puis, il y a toutes les émotions qui vont avec. Si c'est quelque chose qui me contrarie, eh bien, je vais être peut-être impatiente, je vais peut-être être en colère, je vais peut-être être irritable, je vais peut-être être frustrée, je vais peut-être me culpabiliser d'arriver en retard, je vais peut-être même me déprimer. Donc, je vais auto-générer un mal-être chez moi qui va se surajouter, donc qui va augmenter le stress.
On va mettre de l'huile sur le feu, finalement.
Presque, presque. Ouais. Donc, effectivement, de se donner des moyens de calmer cette irritabilité, calmer cette déception, ce désappointement. Alors bon, c'est facile en auto, je mets la radio, je chante ce que disait votre personne là qui vous a écrit. Je mets un CD de, vous savez, développement personnel ou apprentissage d'une langue. Si je veux apprendre l'espagnol et que je suis pris dans un trafic, c'est... tout en restant attentif effectivement à la route et à ce qui se passe,
mais
bien sûr.
Mais là, on parle, Jacqueline, de gestion du stress. Comment l'entendre, ce stress-là? Parce que parfois, on peut être pris au piège et être tellement en colère ou inquiet qu'on ne réalise pas que cette émotion-là se gère. Avant de gérer, il faut réaliser que, un, je ne me sens pas bien, deux, je peux changer quelque chose à cette sensation-là que j'éprouve dans mon bouchon de circulation, mais comment l'entendre plutôt que d'être saisi par elle?
Alors, être saisi par elle, je pense que là, on n'a pas vraiment beaucoup d'outils. Le stress, quand il nous arrive, il est là. Bon, c'est rare qu'on puisse l'anticiper. Ça arrive, plus on se connaît, mieux on arrive à se dire, bon, OK, là, je vais être en retard, je ne vais pas me stresser. OK, on peut se raisonner. Mais quand il est là, on va dire quand il est là, c'est effectivement tous les signes dont j'ai parlé qui vont être des indicateurs. C'est-à-dire, effectivement, la respiration qui est comme bloquée, les muscles qui sont crispés, les mains au volant, là, qu'il serre.
Mais la personne impatiente va être tellement dans son impatience qu'elle ne réalisera pas que
tout de suite,
peux gérer ça.
Oui, elle ne le réalisera pas tout de suite. C'est comme la personne en colère qui n'entend pas ce qu'on lui dit. Il faut attendre que l'énergie de l'impatience ou l'énergie de la colère se tasse un peu. Donc, il se peut que la personne ne l'entende pas du tout puis qu'elle reste stressée jusqu'à la fin de son trajet. Bien sûr, puis qu'elle le fasse même subir en arrivant à son entourage.
Ben, j'allais poser la question, si on est en covoiturage...
Oui.
Est-ce que c'est le temps de dire relax ou au contraire, on va peut-être agiter la marmite encore davantage?
Ça dépend des personnes, en fait. Il y a des personnes où on va leur dire calme-toi, respire, ça va aller. De toute manière, on est en retard, on ne peut rien y faire. Vas-y, relaxe-toi. Puis elles l'entendront bien. Il y en a d'autres, ça va augmenter d'une coche leur exaspération. Et là, il vaut mieux dire... Oh là là, ça doit être exaspérant, je te sens exaspéré ou je te sens frustré. Mettre des mots sur ce qu'on perçoit de la personne pour lui permettre de l'exprimer, de l'extérioriser. Donc, c'est un peu, si vous connaissez la personne, effectivement, de voir qu'est-ce qui est plus aidant pour elle, de mettre des mots sur ce qu'elle ressent parce que c'est tellement intériorisé qu'elle n'arrive même pas à l'exprimer. Donc, le fait que vous mettiez des mots, ça l'aide. Ou au contraire, de lui amener un regard plus extérieur, plus détendu, qui va lui faire dire oh « bah oui, c'est vrai, finalement, je ferais mieux de me calmer, ça ne sert à rien de m'énerver. » Donc, c'est un petit peu, ça dépend de la personne, en fait.
Je présume qu'il y a également, on a également de l'espace pour ne rien dire.
Oui.
C'est peut-être plus prudent de juste rien dire comme copilote.
Il y a une évaluation à faire. Il y a une évaluation à faire. Si on sent que la personne est encore capable de nous entendre, ça vaut la peine de mettre des mots. Si elle n'est plus capable, elle n'est plus capable, donc c'est plus la peine. Sauf si elle met votre vie en danger. Vous savez bien qu'il y a des personnes, quand elles sont dans le stress, qui viennent à avoir des comportements où elles peuvent avoir des gestes brusques, où elles peuvent essayer de se faufiler entre deux, de dépasser tout le monde, etc. Puis de mettre et leur vie en danger et celle des autres en danger. Et là, il est de votre responsabilité de mettre une limite, bien sûr.
Alors, je prends la situation, et je crois savoir la réponse, mais je ne veux pas présumer. Le bouchon de circulation, le chauffeur n'y peut rien. Il est stressé. Parce qu'il est stressé, je deviens stressé. Et moi, je sens que la cause, elle, peut quelque chose pour réduire mon stress. Est-ce que je peux lui dire, écoute, quand t'es comme ça, tu me stresses ou ça devient accusateur et j'augmente son stress? Ça dépend encore de la personne?
Le « tu qui tue » est toujours à...
Je me sens...
« tu qui tue » est toujours à éliminer. C'est déjà ça, une première chose. Lui dire « je ressens ton stress et du coup, je me sens stressée » et je vais faire quelque chose pour moi, mais je t'invite à faire quelque chose pour toi. Parce que je ne suis pas obligée de prendre le stress de l'autre. Donc, quelque part, j'ai laissé la porte ouverte. Quelque part, j'ai permis de m'imbiber. Je me suis permise de m'imbiber du stress de l'autre. Et je ne suis pas obligée de faire ça. Ouais. Donc, il y a effectivement une part qui revient à l'ambiance qui s'est créée là, dans l'instant présent. Mais il y a aussi une part de ce que je laisse entrer en moi ou non.
Est-ce que ça s'apprivoise facilement, le stress aigu? Est-ce que, d'une fois à l'autre, on peut espérer vraiment s'améliorer dans notre comportement ou il y en a qui risquent d'être pris là-dedans toute leur vie?
En fait, là, vous partez non plus sur le stress aigu, mais le stress ou répétitif ou chronique. Quand c'est un stress aigu, quelque chose qui est ponctuel, comme je disais au début de l'émission, factuel, en fait, il y a juste à prendre conscience qu'on est stressé puis à faire quelque chose à ce moment-là par rapport à ce stress. Mais si c'est quelque chose d'un petit peu répétitif, oui, il y aura des choses à faire. Et là, on en parlera à une prochaine émission parce que ça demande un peu plus de temps d'élaboration pour vraiment avoir les outils qui sont pertinents et adéquats.
Mais si une situation, disons que ce soit des bouchons de circulation, que ce soit d'attendre en file à la banque, que ce soit, ce sont différentes situations de stress aigu. Si ça se répète, est-ce que ça devient du stress répétitif ou du stress aigu qui se répète?
Ça devient du stress chronique.
Ah oui.
Oui, parce que vraiment, j'insiste là-dessus. Vous avez le stress ponctuel, aigu, c'est une fois.
D'accord.
Puis vous avez les stress répétitifs et les stress chroniques. Je vous donne un exemple concret. On repart de la voiture.
Oui.
Vous êtes pris dans un accident, vous êtes immobilisé et vous êtes en retard. C'est ponctuel, c'est factuel. Vous êtes stressé parce que vous êtes en retard, puis vous voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça, là, maintenant. Maintenant, vous êtes en voiture et régulièrement, vous êtes en retard parce que vous partez en retard. Ou régulièrement, quand vous faites ce trajet pour aller à votre travail, vous vous sentez stressé parce que vous n'aimez pas la route ou vous n'aimez pas conduire ou votre travail vous stresse. Là, ça devient un stress répétitif.
D'accord.
Puis, je reprends encore un autre exemple. Vous êtes en voiture, vous êtes stressé. Vous êtes à votre travail, vous êtes stressé. Vous êtes avec vos enfants, vous êtes stressé. Et ça, j'appelle ça du stress chronique.
Ouais.
Donc, vous voyez qu'il y a une gradation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et les manières de les traiter vont être adaptées en fonction d'eux.
Mais est-ce que j'entends donc que même s'il y a plusieurs bouchons dans ma semaine, le stress aigu sera une situation que je ressentirai qu'une fois les 5 jours où je me confronte aux bouchons sur Champlain? Même s'il y a 5 bouchons, le stress aigu ne sera ressenti qu'une seule fois.
Oui, parce que vous avez peut-être l'habitude, puisque vous faites ce trajet, vous savez que vous allez avoir un bouchon sur Champlain. Donc, vous le savez. Et donc, vous pouvez le gérer. C'est le jour où, en plus du bouchon, il y a un accident qui vous met en retard et que vous avez un rendez-vous important. Là, on ajoute une coche. Et là, le stress va naître. Alors que si vous savez que tous les jours, vous mettez une heure et quart, une heure et demie pour votre trajet parce qu'il va y avoir ce bouchon, bon, ben là, je veux dire, vous avez le choix ou de vous stresser ou au contraire de profiter du moment pour écouter de la musique, pour écouter votre émission de radio, pour parler avec une oreillette, etc., etc.
Intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, bon, on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à dire sur le stress et on y reviendra avec Jacqueline Arbogast.